petits soins. Notre chronique santé.
Salut, Gengis Grenier.
Salut, Martin, ça va bien?
Ça va très bien. Alors, c'est la journée mondiale de la santé aujourd'hui.
C'est incroyable, quel bon timing, pareil.
Ben oui, ça donne la journée qu'on fait l'émission. Ça arrive une fois aux 4 ans ou 7 ans, je ne sais pas trop. Alors, comment se portent les personnes des communautés de E-LGBTQIA+? Et pour te seconder, Gengis, dans ton regard sur cet état de santé, on reçoit le directeur général de Réseau Santé, Alexandre Dumont-Blais. Salut à toi, Alexandre.
Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour Alexandre, nous, on parle de la santé 365 jours par année.
Tout à fait. Puis les années bisexuelles, c'est 366 jours. C'est ça. Excusez-la. Allez, on est de bonne humeur aujourd'hui. C'est le printemps qui s'en vient pas, parce qu'il ne fait pas très beau ces jours-ci. Alors, comme c'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission, on a toujours l'habitude de demander aux gens quel accord et quel pronom on utilise pour toi.
Pronom il, lui, accord masculin.
Excellent. Merci. Alors, je lance la question à vous deux. Vous décidez qui répond en premier. Comment ça va, la santé, pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre?
J'ai été chercher des statistiques sur l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. Et pour la communauté des femmes, je me suis dit... Ça doit être stable, doit rien avoir de nouveau, tout va bien, ils ont l'égalité au Canada, l'égalité au Parlement. Ouais. Mais non, arc, sincèrement, ça va pas bien dans le monde. Hey, Denis Martin, sais-tu, il y a 202 pays dans le monde, à peu près dans combien de pays les femmes sont légalement légiférées inférieures dans la Constitution de pays? Dans combien de pays, à peu près, les femmes ont officiellement... toujours pas de droit en 2025 ou inférieur par rapport aux hommes.
J'ose pas avancer de chiffres.
C'est incroyable. On parle de 40 à 50 pays. Là. On parle presque du quart des pays à l'échelle internationale où les jeunes filles sont mariées à 8-9 ans. Il y a encore 810 décès de femmes tous les jours sur la planète reliés aux grossesses et aux accouchements. Pourtant, je me croyais sorti du Moyen-Âge quand même. Il y a des choses qui vont quand même bien chez les femmes. On va souligner le positif aussi. Moi, regardant ma mère qui est toujours en train de sermonner mon père, les femmes vivent 5 ans plus vieux que les hommes. Ça n'a pas changé.
En moyenne.
En moyenne,
ouais, oui. Mais c'est en train de réduire, hein? C'est en train de réduire parce que, semble-t-il, dans nos pays, là, ouais.
Ouais, le stress, il commence à s'approprier des maladies plus masculines comme les infarctus, tout ce qui est maladies cardiovasculaires. En se tapant l'égalité, en travaillant autant, et ça vient avec les mêmes risques de santé. Une femme sur 8 va développer un cancer du sein dans sa vie. Un tiers des femmes sur la planète, selon l'OMS, a au moins vécu une fois de la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. L'âge moyen de la ménopause s'est rajeuni, 51 ans. Et les femmes LGBT de couleur ou vivant avec un handicap vont vivre constamment ou presque dans la discrimination. L'accès aux soins et les iniquités sociales sont toujours présentes pour la condition féminine aujourd'hui.
Moi, j'aimerais rajouter, parce que j'ai lu ça ce matin sur l'IRS, les réseaux sociaux, puis c'est quand même des choses que j'allais vérifier, c'est vrai. Alors, on dit que les personnes LGBTQ+, sont moins susceptibles d'avoir un médecin de famille en raison de la discrimination vécue dans le système de santé. Oui. On me dit que les personnes LGBTQ+, sont à 1,5 et à 2,5 fois plus susceptibles que la population générale de souffrir de dépression et d'anxiété, sont levées avec l'enquête c'était l'enquête de Interlink, voilà.
Interlink, exact.
Et une personne trans sur 3 au Canada a évité de consulter un professionnel de la santé par crainte de discrimination. Je te lance la balle.
Ben, écoutez, Alexandre, je veux pas être pessimiste là-dessus, il n'y a rien de nouveau. On pourrait faire le tour en studio, poser la question. J'entends souvent encore que des personnes issues des communautés de LGBT, surtout au niveau des hommes LGBTQ que Réseau rejoint, personnes trans, qu'on a deux médecins, un pour son check-up annuel, puis un autre pour ses questions de pratiques sexuelles puis ses besoins précis. Est-ce qu'on va être à l'aise d'aller parler tout ce qu'on vit avec notre médecin de famille? Pas nécessairement. Je pense que ça tend à s'améliorer, il faut le nommer. Les médecins se rajeunissent. C'est pas juste une question d'âge, mais quand même, il y a des changements de génération. On entend encore souvent ça, puis c'est aussi un enjeu qui ressort là, dans l'étude dont tu fais mention. En fait, c'est l'étude.
C'est une étude, une recherche.
C'est une étude avec léger qu'Interlink a lancé. C'est un des éléments qui ressort qu'on connaît déjà. Avoir accès à un professionnel de soins de la santé. Encore un, quand on y a accès.
Oui.
Ouais. Et puis deux, après, est-ce qu'on est à l'aise de parler de sa sexualité, de ses pratiques en long et en large pour avoir le meilleur service par la suite, que ce soit un dépistage ou autre chose. Donc, ça reste un enjeu. Nous, à Réseau, pour aller un petit peu plus précis, on parle de tout le temps, encore et toujours, de l'accès à la PrEP.
Donc la PrEP qui est la prophylaxie pré-exposition. Juste pour le dire, c'est pour éviter d'attraper le VIH quand on a des relations sexuelles sans l'utilisation du préservatif.
Exactement. Donc, il y a des avancées sur la façon de prendre la PrEP, une pilule à tous les jours. Il y a maintenant une nouvelle façon par injection à tous les deux mois qui est couverte par la RAMQ. Mais pourquoi il n'y a pas de programme de PrEP gratuite au Québec comme qu'il y a dans d'autres provinces au Canada pour considérablement réduire les nouveaux cas de VIH?
J'aimerais juste qu'on parle concrètement le problème que ça pose. Parce que là, on dit le remboursement, mais ça, on rembourse, mais il y a toujours un déductible à payer. Puis oui. Ça, c'est pas toujours évident. C'est quand même, ça peut être dispendieux pour quelqu'un qui a un faible revenu là, ou un revenu limité.
Exact. La pilule à tous les jours de PrEP, je veux préciser, parce que juste la pilule tout seul, on peut penser à autre chose.
Ouais.
60 $ par mois. Effectivement, avec un loyer à 1 400 $ à payer pour une personne,
qui est la moyenne, oui.
Ça peut donner un choix à un certain moment donné d'arrêter de la prendre, alors que la sexualité, elle, à côté, continue d'exister. Les gens ne vont pas arrêter d'avoir du sexe. On l'a compris pendant la pandémie, hein. C'est pas parce qu'il y avait une pandémie que les gens arrêtaient d'avoir du sexe.
Oui, parce que l'explosion des ITSS après la pandémie, quand on a recommencé à faire les dépistages. Ouais.
Exactement. Ouais. Exactement.
Wow. Gengis. Les personnes trans, je viens de mentionner ça, ce sont des personnes qui ont plus de problèmes que la moyenne dans le système de santé.
J'ai été d'autant plus horrifié à faire des vérifications en ligne, surtout un peu ce qui s'apparente à traîner sur le dark web. Le dark web, c'est dans le fond la violence internationale faite aux personnes trans, l'humiliation publique, la torture publique, voire même des meurtres publics, sont des choses malheureusement qui sont encore courantes à l'échelle internationale. Sur un point de vue plus local, pour revenir aux professionnels de la santé qui ne sont pas toujours à l'aise, ce que Alexandre disait est quand même assez vrai. 22% des professionnels se décrivent eux-mêmes à l'aise face aux personnes trans rapportées par la presse l'année dernière. Il y a une très bonne nouvelle quand même dans notre histoire récente. L'OMS a supprimé le trouble de l'identité de genre de ses manuels de diagnostic. Nous invitons le DSM-5 à en faire pareil en Amérique du Nord. J'allais vérifier, tout ce qui est trouble d'identité de genre est toujours dans les diagnostics officiels Québec, Amérique du Nord et toutes les médecines, même plusieurs pays modernes. Je dirais peut-être pas les Pays-Bas, j'ai pas fait les vérifications, mais au Canada et aux États-Unis, le trouble de l'identité de genre est toujours là, malgré que l'OMS l'a supprimé. Fait qu'on peut calculer quelques années.
Mais j'aimerais qu'on comprenne, parce que ce qu'on appelle la dysphorie de genre, qui est quand même ce que vivent les personnes quand ils vivent une espèce de moment autour de leur transition. Et il me semble que c'est quand même une condition de santé épouvantable. Les gens vivent des dépressions avec ça. C'est difficile pour eux. Il y en a qui commettent des suicides. Il y a quand même un problème de santé mentale relié à ça.
Oh oui, tout à fait. T'sais, c'est sûr que la santé mentale, la consommation et tout ce qui est relié avec ce qu'une personne trans peut vivre dans son diagnostic, sans son accompagnement, s'il y a oui ou non des chirurgies, s'il y a oui ou non une hormonothérapie, c'est tellement important chez la communauté trans que chez les trans, 41% des personnes trans font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie versus 4 à 6 % de la population générale. Puis on parle vraiment de chiffres internationaux, là, de grosses études qui ont été compilées. 23 % sont quand même victimes de discrimination lors des épisodes de soins. On vient juste de mentionner que moins de 25 % moins d'un professionnel de la santé sur 4 se sentent très à l'aise de prodiguer des soins. Ça veut dire que 75 % ne le sont pas nécessairement. Mais moi, en étant un infirmier LGBT dans ma communauté, m'approprier justement les pronoms et tout ça. Moi, j'ai chialé pour qu'il y ait de la formation en ligne. Puis là, maintenant, les autres professionnels viennent d'en débloquer. Ça existe là, en ligne pour former les professionnels. Discrimination, emploi, école, logement, c'est sûr que les trans vont y passer. Des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Ouganda font littéralement la chasse aux sorcières. Des transsexuels, c'est criminalisé. Oui, c'est la peine de mort. En fait, On parlait chez les femmes 40 à 50 pays sur la chaîne internationale, la scène internationale qui vont officiellement limiter les droits des femmes. Chez les personnes trans, c'est d'autant plus élevé, c'est 60 à 70 pays qui le criminalisent littéralement, là, sans compter ceux qui font la peine de mort, etc. C'est quand même... Il y a place à amélioration sur la scène internationale.
Je vais te relancer parce qu'on a parlé d'accès, mais aussi l'accès à des services de qualité. Moi, je vais vous relater une expérience. J'ai passé des tests il y a quelques années, comme on en fait souvent quand on est le moindrement actif sexuellement, et on m'avait décelé une gonorrhée à l'époque. Et quand je suis allé consulter, puis j'ai parlé de la situation, alors avant qu'on fasse les tests... L'infirmière qui a pris mes tests m'a dit « Mais vous devriez faire attention, puis mieux vous protéger. » Et là, j'ai senti un jugement épouvantable. Mais évidemment, je suis capable de me défendre. J'ai dit « Attends un petit peu, là. Moi, je ne suis pas venu ici pour me faire juger. Je suis venu ici pour me faire traiter. » Ça existe encore. Je te parle de quelques années, en 2025. C'est encore là, ça, ces problèmes de discrimination-là?
Je vois que tu me regardes dans ta Alexandre question, Denis Martin. Écoute, je ne suis pas dans le cabinet avec chacune des personnes qu'on peut rencontrer à Réseau, mais je pense que derrière l'anecdote que tu partages, c'est que dans le fond, puis aussi dire les vraies choses, là, se protéger contre une gonorrhée ou une chlamydia, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettre des sacs de poubelle partout sur le corps, je veux dire.
Parce que le préservatif ne te protège pas complet.
Moi, je pense que Denis Martin, dans le fond, voulait dire, tu sais, moi, les patients, ils n'iront pas me dire « Hey, ta collègue me dit ci, ta collègue me dit ça, il s'est passé, il s'est passé ça. » Dans le fond, dans le communautaire, tu dois entendre beaucoup plus de confidences que supposons, elle, mais il s'est passé
ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, juste sur le fond de la question, c'est que même si on porte un condom, on peut quand même contracter une gonorrhée ou une clame. C'est ça que je voulais dire. Okay. Mais.
Il sera couvert d'un sac de poubelle. J'ai une image en tête. Là,
je pense que. Non, mais c'est une blague pour dire qu'on ne peut pas se protéger à 100% de tout. Je pense que derrière cette question-là, il y a quand même une bonne intention. Des fois, c'est très maladroit. Puis, on va présumer que la personne ne se protège pas parce qu'elle obtient un résultat positif d'une TSS. Je reviens un peu à ce que je disais plus tôt. On est encore... Des fois, on va faire des liens entre une orientation sexuelle puis des pratiques sexuelles, alors que nonobstant l'orientation, les gens ont des pratiques, puis il faut se baser là-dessus, puis quel est le niveau de risque, puis quelles sont les meilleures stratégies qui existent en fonction des pratiques de la personne, peu importe son orientation. Mais clairement, ce qu'on voit, c'est que les communautés qu'on rejoint, dès qu'ils sont avec un professionnel, une personne professionnelle de soins qui s'identifie LGBT, clairement, ça va beaucoup plus vite et on se sent beaucoup plus à l'aise directement. Les codes sont compris. On n'a pas besoin de rentrer en détail sur les situations qu'on vit dans nos vies parce qu'on sait que la personne avec nous dans le cabinet est comme nous, dans le fond, et donc passe un peu peut-être à travers les mêmes situations que nous. Donc, on ne peut pas non plus espérer que toutes les personnes professionnelles soient LGBTQ, donc, mais accès à plus d'informations puis mettre leur jugement de côté, évidemment. Donc oui, c'est encore un enjeu au-delà de l'accès aux soins puis aux médicaments pour le VIH et prévention VIH qui sont nécessaires.
Il me reste 3 minutes, puis je pense que c'est un sujet que je trouve qui est important. On en a discuté souvent à l'émission, puis on va en discuter tout à l'heure aussi. Le chemsex, c'est quand même, surtout chez les communautés d'hommes, je pense que ça commence à exister pas mal partout. Est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on a ceinturé ou est-ce qu'on a fini par contrôler ce problème-là ou on ne l'a pas contrôlé?
Au niveau communautaire, pour notre organisme, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Au niveau plus large dans la société, est-ce qu'on fait assez? Non. Je pense qu'il y a différents programmes gouvernementaux qui pouvaient exister davantage et des programmes adaptés, spécialisés. Quoi, quand même, je regarde, moi, mon parcours à Réseau depuis une dizaine d'années, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, issues même des personnes pratiquant le chemsex qui ont développé des outils en concertation avec le communautaire puis des chercheurs dans le milieu scientifique pour améliorer les choses. Donc, il y a des choses qui sont là. Je pense entre autres au podcast Chem Story dans lequel Réseau est un partenaire communautaire. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien. Est-ce que c'est assez? Clairement non, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont aux prises avec ça, pour lesquelles aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a différents profils de consommation récréative, problématique, des personnes qui veulent s'abstenir. Il faut jongler aussi avec ces différents profils-là. Ça peut varier d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, dans l'année de la personne. Et évidemment, que ça soit LGBTQ ou pas, la consommation reste quand même encore un tabou. Quand on regarde toutes les critiques qu'on peut lire sur les réseaux sociaux avec la consommation, l'itinérance depuis quelques années dans le village puis en périphérie, ça reste reste quand même un enjeu social qui est très stigmatisé.
Puis quand on entend le chef de l'opposition qui veut devenir premier ministre commencer à avoir des manières répressives de gérer la consommation de drogue, là, on est dans un autre
problème. Dans d'autres pays, depuis déjà 20 ans, ils ont fait autrement, puis c'est positif aujourd'hui.
Je te laisse la dernière minute, Geneviève.
Ben, en parlant de répression puis de jugement envers les gens qui font l'utilisation du chemsex, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le centre-ville de Montréal, dû aux politiques de Donald Trump sur toutes les drogues qui circulent aux États-Unis, il y a quand même eu un gros coup d'envoi puis plusieurs arrestations musclées dans le centre-ville de Montréal. Moi, je me suis promené hier, les rues étaient franchement vides, il n'y avait plus de dealers à tous les coins de rue. Tu sais, je pense que le fait de prendre au sérieux la circulation de la drogue, il faut peut-être s'en prendre à ceux qui la vendent. Oui, c'est quand même du commerce de drogue illégal, mais quand on se promenait dans le village, on s'en faisait quand même offrir à tous les coins de rue par monsieur, puis peut-être pas des dealers de drogue dans leur milieu, mais il reste qu'il y a eu un petit coup de ménage dans le village dans les dernières semaines, puis ça fait franchement du bien de plus s'en faire proposer à tous les coins de rue.
En tout cas, monsieur Poiliev propose un plan de, je sais plus quoi, 4 milliards de dollars ou quelque chose du genre pour qu'on puisse donner 20 heures de traitement avec un intervenant psychosocial.
Attendons la fin des élections. Ouais. Il y aura peut-être des surprises.
Ouais. Il y a des idées de grandeur, lui.
Mes deux amis, Geneviève Grenier et Alexandre Dumont-Blais, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci.